bienvenue dans Focus Sahel, en direct de Washington sur VOA Afrique, avec Eric Manirakiza.
Bonsoir et bienvenue dans Focus Sahel pour une perspective unique sur la région. Et chaque semaine, nous explorons les nombreuses facettes de la vie au Sahel. Au menu ce soir, le Sahel, nouvel épicentre du terrorisme mondial, intensification des efforts militaires et appel à des solutions économiques pour éradiquer ce fléau. Visite au Mali et au Burkina Faso du président sénégalais Bassirou Diomaye Faye, une mission délicate pour renouer le dialogue avec l'Alliance des États du Sahel. En quoi la nouvelle figure du président Diomaye Faye pourrait-elle influencer positivement les relations entre les pays de l'AES et la CDAO? Nous en parlons dans notre fait marquant de la semaine. À la découverte du renouveau textile au cœur d'Okoro au Mali, le dynamisme des artisans d'Ogon dans la revalorisation de leur héritage culturel malgré la crise sécuritaire. Vous pouvez également nous suivre en direct sur Facebook. Je suis ravi que vous vous joigniez à nous dans ce voyage de découverte et de dialogue. Encore une fois, bienvenue. La région du Sahel émerge désormais comme le foyer principal du terrorisme mondial, incitant les nations du globe à redoubler d'efforts pour contrer cette violence, notamment à travers des initiatives telles que les exercices militaires Flintlock 2024 au Ghana et en Côte d'Ivoire. Toutefois, les experts soulignent que l'amélioration des conditions économiques dans la région pourrait s'avérer un moyen de dissuasion encore plus efficace. Reportage de Senanou Tord à Tamale au Ghana. Le récit de Nathalie Barge.
À l'aéroport international de Tamale au Ghana, les troupes s'entraînent dans une simulation de fusillade. Cet exercice fait partie du partenariat de sécurité entre les États-Unis et l'Afrique, visant à renforcer les efforts de lutte contre le terrorisme dans la région.
L'objectif le plus important de ces exercices est de renforcer les capacités des partenaires. Nous nous concentrons sur des choses comme préparer le terrain, développer l'interopérabilité et les aider à développer les capacités nécessaires pour atteindre leurs objectifs de sécurité en Afrique.
Organisée par le département américain de la défense, l'opération Flintlock 2024 travaille avec des experts de la sécurité d'Europe, d'Asie et d'une trentaine de pays partenaires au Ghana et en Côte d'Ivoire. Pendant 2 semaines, ils participent à des simulations de combat et partagent des renseignements sur la lutte contre le terrorisme.
Nous constatons que les activités des éléments terroristes et armés progressent et nous devons trouver les voies et moyens pour y répondre.
Des analystes de la sécurité affirment cependant que la focalisation sur les réponses militaires au terrorisme au Sahel a échoué. Selon l'indice mondial du terrorisme 2024, publié par l'Institut pour l'économie et la paix, l'Afrique subsaharienne est devenue l'épicentre mondial du terrorisme avec plus de 50% des décès dus à l'extrémisme violent. Moutarou Moumouni Mouktar, directeur exécutif du Centre africain de lutte contre l'extrémisme, critique l'approche militariste.
Cela a suscité de nombreuses doléances au sein de la population locale. Elle a ignoré les réalités des vulnérabilités ou les moteurs de l'extrémisme violent, les questions de sécurité humaine, de création d'emplois, la lutte contre la vulnérabilité et la marginalisation des jeunes.
Mouktar affirme que les jeunes vulnérables sont facilement radicalisés.
Les jeunes moyens pensent que les engagements du FMI avec l'Afrique sont construits autour des conditionnalités qui les empêchent de stimuler une croissance économique qui puisse permettre à l'État de recruter ou de créer des emplois pour les jeunes, et ils blâment donc l'Occident.
Ce sentiment se reflète dans des appels croissants lancés aux pays africains pour les inciter à rompre leurs relations avec leurs partenaires étrangers. Les États-Unis ont annoncé en avril qu'ils vont retirer leurs troupes du Niger et du Tchad.
Les États-Unis discutent toujours de la manière dont les relations de sécurité avec le Niger, par exemple, seront gérées. Et nous tous, y compris le Ghana et d'autres pays de la CDAO, sommes préoccupés par un recul démocratique.
Certains experts affirment que si les relations tendues et les déficiences économiques dans la région du Sahel ne sont pas résolues, l'approche militaire à elle seule ne parviendra pas à mettre un terme à l'extrémisme violent.
Voilà, c'était donc pour planter le décor. Nous avons des commentaires de quelques auditeurs sur notre page Facebook. Sylvain Caboret, il dit « Le terrorisme au Sahel est souvent considéré comme une crise négligée. Cela s'explique par le manque de couverture médiatique dans la région, l'absence de volonté politique internationale pour trouver une solution durable et les limites démontrées des forces armées locales et internationales face à la persistance de la crise. De plus, le financement insuffisant pour répondre aux besoins humanitaires actuels exacerbe le sous-développement, intensifiant ainsi le défi sécuritaire au Sahel, avec des répercussions sociopolitiques et économiques significatives. Lasga Sek, il dit, je cite, « Il est vrai que la pauvreté peut être un facteur favorisant le terrorisme au Sahel, mais les causes véritables sont multiples. L'essentiel est de trouver des moyens pour pacifier le Sahel en démobilisant les groupes armés. » Tite Ndaye Gamillé, le Sahel est devenu une zone de non-droit, envahie par des trafiquants de drogue et d'armes, influencée négativement par certains pays occidentaux. Les solutions proposées incluent la fermeture des bases militaires étrangères, l'occupation du territoire par les forces locales et le contrôle strict des mouvements de population. Mahamadi Idani, il dit, je cite, « L'AES n'a absolument pas besoin d'une armée étrangère sur son sol. L'expérience de l'opération Barkhane nous a largement ouvert les yeux. Envoyez-nous seulement les armes, nos forces de sécurité et de défense se chargeront du reste. » Signé Mahamadi Idani. Enfin, Sozani Akouignon, la situation s'améliore au Mali et au Burkina Faso, où les promoteurs du terrorisme dans le Sahel sont désormais bien connus. Les choses progressent mieux maintenant. Nous approfondissons donc la discussion avec notre analyste Célestin Simon Delanga. Il est chargé de recherche à l'Institut d'études de sécurité ISS. Simon, bonsoir.
Bonsoir, Eric.
Alors, on va commencer avec son dernier commentaire. La situation s'améliore au Mali et au Burkina Faso. Les choses progressent mieux. Maintenant, c'est Akouignon qui le dit. Votre commentaire.
Alors, permettez-moi, Eric, de faire quelques observations avant toute chose. La première est la suivante. 40% de la population au Grand Sahel vit en dessous du seuil de la pauvreté. La deuxième observation, la pauvreté est plus élevée en milieu rural qu'en milieu urbain dans le Sahel. La troisième observation, le taux de chômage en Afrique subsaharienne en général et au Sahel en particulier est de 17%. À cela, il convient d'ajouter, Eric, le manque de perspectives socio-économiques. Or, les entrepreneurs de l'extrémisme violent se livrent, on le sait, à des activités parfois extrêmement lucratives. En l'occurrence, les trafics de drogue, par exemple, les trafics des armes, les trafics de carburant, trafic d'êtres humains, orpaillage illégal, braconnage, et j'en passe. Il convient également de noter que les groupes extrémistes violents se livrent à des pratiques telles que les enlèvements contre rançon, le vol de bétail. Ils pratiquent des activités agricoles et piscicoles, notamment dans le bassin du lac Tchad, très fertile. Ils collectent des taxes auprès des usagers. Toutes ces activités, Eric, génèrent des millions de francs et constituent une véritable attraction pour les jeunes désœuvrés et sans emploi. Les États doivent davantage s'investir dans la lutte contre la pauvreté et le chômage des jeunes en améliorant et en stimulant la création d'entreprises et en encourageant l'auto-emploi en réponse à ce qui précède. Merci.
Oui, Simon, donc vous soulignez les principaux facteurs économiques qui alimentent justement l'extrémisme violent dans la région du Sahel. Vous venez de donner quelques pistes pour atténuer sans recours principalement à des interventions militaires. Vous parlez de la création d'emplois. Est-ce que les choses progressent?
Oui, il y a des volontés, des États affichés. Il y a des programmes de lutte contre la pauvreté mis en œuvre ça et là, mais ces programmes restent et demeurent insuffisants au regard des activités extrémistes qui continuent d'enrôler des jeunes jusqu'à ce jour.
Pensez-vous que les exercices militaires tels que Flintlock 2024 ont un impact significatif sur la réduction de la menace terroriste ou sont-ils principalement symboliques?
Alors, le métier de soldat exige naturellement des exercices, des entraînements, de formation et de recyclage. Ces exercices offrent l'occasion d'expérimenter des manœuvres transnationales nécessaires pour contrer une menace aussi transnationale que l'extrémisme violent dans le Grand Sahel. Je voudrais renchérir en disant qu'une armée forte doit être en perpétuelle formation. Ses techniques et ses tactiques doivent pouvoir répondre efficacement à la menace sécuritaire qui se présente à elle. Et dans le contexte du Sahel en général, les menaces sont dynamiques. Le mode opératoire varie au fil du temps. On observe par exemple que les insurgés de Boko Haram dans le bassin du lac Tchad se retournent à l'usage des engins explosifs improvisés. Dans cette perspective, par exemple, il est nécessaire et urgent que les forces en présence développent leur capacité en matière de déminage. Fort de cela, les exercices militaires, à l'exemple de Flintlock, qui est un exercice militaire annuel du commandement des opérations spéciales des États-Unis en Afrique, et donc l'édition 2024 a eu lieu en Côte d'Ivoire et au Ghana, permettent aux soldats de se remettre à niveau et de partager leur expérience utile pour la lutte contre le terrorisme au Sahel.
Simon, pensez-vous que le retrait des troupes américaines du Niger et du Tchad pourrait exacerber les problèmes de sécurité dans la région ou cela pourrait-il encourager une plus grande autonomie et des solutions locales pour contrer cet extrémisme violent?
Alors Eric, à mon humble avis, le Niger et le Tchad sont deux États souverains et autonomes. Ils sont garants de leur gouvernance sécuritaire. Ils sont donc libres de leur partenariat, y inclus dans le domaine sécuritaire. La coopération militaire entre les États permet de renforcer les capacités, certes, mais elle est appelée à prendre fin si les objectifs sont atteints. Je pense que chaque armée régulière est appelée à être autonome face à ses missions régaliennes, parmi lesquelles la défense de l'intégrité territoriale. Elle peut accepter de l'aide, mais elle ne doit en aucun cas céder son rôle. Donc, avec ou sans les Américains, sans l'armée américaine, le Tchad et le Niger doivent pouvoir résoudre leurs problèmes sécuritaires. C'est mon avis.
Alors, quel rôle pourraient jouer les gouvernements africains et les organisations régionales comme la CEDEAO ainsi que la Commission pour le bassin du lac Tchad dans le renforcement de la sécurité et de la stabilité au Sahel au-delà des interventions militaires?
Alors, je prends pour exemple la Commission du bassin du lac Tchad dont les quartiers sont en N'Djamena au Tchad comme organisation régionale avant de parler de la CEDEAO. La commission du bassin du lac Tchad, Eric, a fait de la lutte contre Boko Haram son cheval de bataille. Elle entreprend plusieurs actions civiles importantes, si on fait fi des actions militaires, qui permettent de réduire considérablement les violences. Elle a par exemple élaboré une stratégie régionale de stabilisation, de redressement et de résilience des zones du bassin du lac Tchad affectées par la crise Boko Haram. Quelle stratégie propose des politiques et programmes de lutte contre Boko Haram concrètes et applicables selon le contexte de chaque pays? L'une de ces politiques, par exemple, est le processus de désarmement, de mobilisation et réintégration des personnes associées à Boko Haram, qui est mis en œuvre dans tous les États de la région engagés dans la lutte contre Boko Haram. Les pays du Sahel et de la CEDEAO devraient s'en inspirer pour mieux faire face à l'extrémisme violent.
Merci beaucoup, Célestin Simon Delanga, pour votre expertise et vos explications. Je rappelle que vous êtes chargé de recherche à l'Institut d'études de sécurité. Merci beaucoup et bonne soirée chez vous au Cameroun.
Merci, c'est moi qui vous remercie.
Le Sahel, une région à la croisée des chemins. Focus Sahel, votre nouvelle émission sur VOA Afrique.
Crise sécuritaire, montée de l'extrémisme, déplacement de populations, influence étrangère. VOA Afrique braque ses projecteurs sur la bande sahélo-saharienne pour vous aider à comprendre les enjeux qui sévissent dans cette région et les événements qui rythment la vie de ces pays.
Retrouvez nos équipes à Washington et nos correspondants sur le terrain pour des reportages, des analyses et des interviews.
Pour tout comprendre sur le Sahel, rendez-vous tous les mardis à 18h temps universel sur VOA Afrique, voafrique.com et toutes nos plateformes digitales. Les visites du président sénégalais Bassirou Diomaye Faye à Bamako et à Ouagadougou le 30 mai ont suscité de nombreux commentaires. Fidèle à une promesse de campagne, le nouveau dirigeant sénégalais a rencontré ses homologues du Mali et du Burkina Faso qui ont décidé avec le Niger de quitter la CEDEAO. Son objectif, tenter de rétablir le dialogue entre les pays de l'Alliance des États du Sahel et l'instance régionale. Cependant, des experts estiment que la mission du chef de l'État sénégalais pourrait s'avérer ardue. C'est un reportage de notre correspondant à Bamako, Mohamed Danyoko.
Première visite à Bamako et à Ouagadougou depuis son élection, le président Diomaye Faye était en prise de contact avec ses homologues de la sous-région ouest africaine. Une visite mise à profit pour rappeler les défis communs et les voies et moyens pour les relever. Au Mali, comme au Burkina, la question de la lutte contre le terrorisme était au centre des échanges. Pour beaucoup de Maliens, cette visite peut permettre d'instaurer le dialogue rompu entre les États de l'AIS et la CEDEAO.
Diomaye peut jouer un grand rôle dans la décrispation des climats qui existent entre le pays et entre le Mali, le Burkina et la CEDEAO, bien sûr, parce qu'il incarne une nouvelle figure. Il n'est pas de ce entre guillemets de ce club de présidents qui ont imposé des sanctions sur les deux pays. Bon, en tant qu'une nouvelle figure, je crois que ça peut peser lourd sur les deux pays, le Mali et le Burkina, qui peuvent vraiment avoir beaucoup plus en confiance en lui.
En plus du Niger, le Mali et le Burkina Faso ont pris la décision en janvier dernier de se retirer de la CEDEAO qu'il accuse de défendre des intérêts étrangers alors qu'ils avaient lancé en septembre 2023 l'Alliance des États du Sahel. Lors de sa tournée, Bassirou Diomaye a, à titre individuel, plaidé pour un retour de ses pays au sein de la CEDEAO. Présent à Bamako pour prendre part à la troisième édition du Salon des médias, Ousmane El Hadj Ibrahim, directeur de Télé Sahel, la télévision nationale du Niger, pense que cela est difficile en l'état actuel des choses.
La seule possibilité, c'est de traiter en tant qu'espace communautaire d'égal à égal avec la CEDEAO. C'est ce qui est envisageable pour un peu aplanir les conflits. Mais je ne pense pas, tel que ça a été vu, tel que ça a été demandé par la CEDEAO, que les trois pays de l'AS individuellement retournent à la CEDEAO. Je ne pense pas à cela.
Malgré les contraintes, le président sénégalais croit en la vertu du dialogue pour concilier les positions.
Nous devons continuer à travailler avec toutes les parties prenantes, ne pas se décourager de trouver des issues heureuses qui nous permettent de renforcer l'intégration, soit en passant par la coopération bilatérale, mais aussi en essayant de corriger les impairs que nous avons notés dans la coopération multilatérale, notamment à travers dans les instances sous-régionales et régionales, et qui nous ont valu cette situation regrettable que nous vivons.
Au Burkina, où il a achevé sa visite, il a reconnu que la position était figée, ce qui ne l'empêche pas d'entrevoir une opportunité de dialogue. Quant à la question de savoir si le Sénégal était prêt à rejoindre l'Alliance des États du Sahel, le nouveau président sénégalais a répondu que cela n'était pas à l'ordre du jour. Mohamed Danioko pour VOA Afrique, Bamako.
Et dans notre fait marquant de la semaine, nous retrouvons le journaliste écrivain Seydik Abba pour analyser les enjeux de cette visite du président sénégalais à Bamako et à Ouagadougou. Seydik, bonsoir.
Bonsoir.
Je rappelle que vous êtes spécialiste du Sahel. Quel rôle le Sénégal peut-il jouer pour faciliter le dialogue entre l'Alliance des États du Sahel et la CEDEAO, compte tenu de sa position relativement neutre et de la figure nouvelle que représente le président Diomaye Faye?
Non, je crois que le président Diomaye Faye est cohérent. Il avait déjà, avant d'accéder à cette fonction suprême, à la tête du Sénégal, il avait déjà fait la promesse, une fois élu, de voir dans quelle mesure il pourrait assurer le rôle de médiateur entre la CEDEAO et les pays de l'Alliance du Sahel. Donc, il n'est pas surprenant qu'une fois installé dans ses fonctions de président du Sénégal et après avoir fait le tour de ses voisins immédiats, que sont la Gambie, la Guinée-Bissau, la Côte d'Ivoire, qu'il décide d'aller à la rencontre des chefs d'État, des États de l'Alliance du Sahel. À mon avis, le président Diomaye Faye a une carte à jouer dans cette médiation. Comme vous avez dit, il a une posture de neutralité. Il peut à la fois parler aux pays de l'Alliance du Sahel et aux pays de la CEDEAO, aux autres pays de la CEDEAO, tels que la Côte d'Ivoire, tels que le Togo, les autres pays aussi de la CEDEAO. Cette posture-là fait que, à mon avis, comme il l'a dit, malgré les difficultés, il y a un espoir puisqu'il peut parler aux uns et aux autres. Et je pense que aussi l'autre carte qu'il a entre les mains, c'est son diagnostic que lui-même reconnaît, comme les États de l'Alliance des États du Sahel, comme les trois pays membres de l'Alliance des États du Sahel, il reconnaît qu'aujourd'hui, il y a des insuffisances dans la gouvernance de la CEDEAO, dans sa conduite. Mais le problème n'est pas de se retirer, c'est de rester et de pouvoir transformer ça à l'intérieur. Donc, tout cela m'amène à penser que, pour l'instant, on peut faire crédit au président Diomaye Faye dans sa démarche et il faut espérer qu'elle aboutisse parce que le retrait de ce pays-là entraîne la perte des acquis, 50 ans d'acquis, puisque, comme vous savez, la CEDEAO a été créée en 1975 et que l'année prochaine, elle devrait fêter ses 50 ans. Avec le retrait des pays de l'Alliance des États du Sahel, c'est clair que ce serait un coup dur pour l'intégration régionale.
Oui, c'est dit que j'ai encore deux questions pour vous. Quel pourrait être donc le point de convergence pour renforcer la coopération entre l'AES et la CEDEAO et quels sont les principaux obstacles à la réintégration des trois pays au sein de la CEDEAO et comment le Sénégal peut-il aider à surmonter ces obstacles en une minute?
Non, je crois que il y a une complémentarité à rechercher entre la CEDEAO et les États de l'Alliance du Sahel qui sont dans une dynamique d'avoir une architecture commune de sécurité et de défense. La CEDEAO ayant une vocation d'intégration économique, on peut trouver des passerelles de complémentarité entre le souci de faire face aux défis sécuritaires à travers la mutualisation des moyens et l'architecture de défense et de sécurité commune de l'AS et la démarche de la CEDEAO. Et de ce point de vue, le président Diomaye Faye peut aider à justement à rapprocher les positions et à installer cette passerelle-là.
Alors, comment le Sénégal pourrait-il promouvoir et garantir le respect des libertés publiques au sein de l'AES, notamment dans des contextes où les tensions politiques et sécuritaires sont élevées?
Non, je crois que le Sénégal serait imprudent de vouloir demander qu'il y ait plus de respect des droits de l'homme ou plus de démocratie dans ces pays-là. Parce que ça, c'est un agenda intérieur. Et ce qui a révolté les pays de la CEDEAO et qui fait aujourd'hui qu'ils ont des problèmes avec l'Occident, c'est justement cette volonté de leur imposer des calendriers. Le Sénégal peut, à titre de conseil, montrer que, comme il l'a fait, que la démocratie est le meilleur chemin, puisque comme on sait au Sénégal, on est arrivé à une alternance démocratique sans qu'il y ait eu de coup d'État. Donc le Sénégal peut être dans la posture de conseiller, d'accompagner ces pays-là, mais vouloir exiger qu'il y ait de la démocratie ou le respect des droits de l'homme, à mon avis, ça braquerait les États, et ce n'est pas la volonté du Sénégal de braquer ces États-là. Donc il faudra aller dans le sens de les accompagner, de les sensibiliser, de les persuader que il n'y a pas de meilleur chemin que la démocratie et que le coup d'État, sans doute, représente un recul à la fois dans la démocratie et dans le développement de ces États-là.
Merci beaucoup, Sédic Abba, pour vos explications. Je rappelle que vous êtes journaliste, écrivain et spécialiste du Sahel.
Merci à vous.
Rendons-nous à Koro, dans la région malienne de Bandiagara, pour discuter des efforts visant à redonner vie au textile local sur le plateau d'Ogon. Les artisans locaux y confectionnent avec habileté du bogolan, de l'indigo et des pagnes tissées, des produits qui incarnent l'âme culturelle de la région de Bandiagara. Malgré les défis posés par la crise sécuritaire, ces artisans s'engagent avec détermination dans la revitalisation du textile traditionnel de Koro, la correspondance de Tidiani Ouedraogo.
Salutations matinales sous les grands arbres du village. Ici, les femmes se retrouvent tous les jours pour transformer les cotons en fibres. Ce travail est un héritage familial pour certaines d'entre elles comme Alima.
La transformation du coton est un héritage familial, une tradition qu'on doit respecter.
Le tissage est un travail complexe. Nous sommes dans le village de Ejubara. Les femmes transforment le coton en fibres et semblent tirer profit de cette activité.
Nous transformons le coton en fibres. Je peux économiser 15 à 20 000 francs par mois si la demande est forte.
Les fibres de coton sont ensuite remises au tisserand qui lui fait appel à sa créativité pour produire un tissu en plusieurs motifs.
Il faut avoir de la passion et de la créativité pour pratiquer ce métier. C'est le seul travail que j'ai appris de la vie.
Des tissus bien sollicités lors des festivals culturels. Ici, le local fait partie intégrante de l'identité culturelle du plateau d'Ogon, comme l'explique Yacouba Traoré, producteur de bogolan.
Bien avant la crise sécuritaire, je revendais le bogolan dans les pays comme la Côte d'Ivoire, l'Afrique du Sud et le Nigeria. Le marché était vraiment rentable.
La confection du tissu est une tradition qui a résisté au temps. Malgré l'impact de la crise sécuritaire sur les secteurs, les artisans se donnent comme mission de revaloriser les textiles traditionnels. Tidiane Ouedraogo pour VOA Afrique Koro.
Merci à Tidiane pour ce reportage. C'est la fin de cette édition de Focus Sahel. Merci à notre public qui nous a accompagnés dans ce voyage au Sahel. Merci également à nos invités qui ont partagé avec nous expertise et point de vue. Enfin, je tiens à saluer le travail de nos correspondants qui se sont surpassés pour vous apporter ces nouvelles de la région du Sahel. Eric Manilakiza était avec vous au micro. Lionel Lunanila Gahima et Trésor Matondo ont assuré la production et la réalisation. Nous vous remercions d'avoir écouté Focus Sahel et nous vous disons à bientôt. Au revoir.
C'était Focus Sahel. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage à travers l'une des régions les plus complexes de la planète.
Vos points de vue, vos défis, vos récits et vos contributions sont les bienvenus.
Laissez-nous vos commentaires sur voaafrique.com ou sur notre page Facebook VOA Afrique.